Radio Okapi.
Le journal à Gaëtan Ponaïlima.
Okapi.
Le monde scientifique a peut-être réussi à mettre sur pied un nouveau vaccin contre la maladie Ebola. Testé en Guinée sur plus de 4000 personnes, le vaccin VSV-Ebo a été développé par l'Agence de la Santé publique du Canada et s'est révélé à 100% efficace. Les détails à la une de ce journal. Des familles jetées à la rue à la suite de la destruction de plus de 200 maisons lors d'une forte pluie. Le drame se déroule dans un village du Maniema, à 145 km au nord de Kindu. Le chef du village, Loubilé, lance un SOS aux autorités du pays. Et les parents du Sud Kivu qui dénoncent la vente obligatoire des fournitures scolaires par les gestionnaires des écoles sur place. Le directeur provincial de l'enseignement primaire et secondaire demande aux responsables des écoles de se conformer aux instructions du ministre quant à ceux. Bonjour à tous. Ce journal commence par une bonne nouvelle. Un nouveau vaccin contre Ebola va peut-être très bientôt être trouvé et l'Organisation mondiale de la santé ne cache pas son enthousiasme quant à cette éventualité. Elle vient de publier ce vendredi un communiqué dans lequel elle présente un vaccin encore expérimental testé de manière significative en Guinée comme très efficace. Dona Madimba, comment s'appelle ce vaccin ?
Le dit vaccin s'appelle Ebola VSV Ebov et selon l'OMS, au vu des résultats très encourageants d'un premier essai réalisé sur le terrain en Guinée, Margaret Chan, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, a souligné qu'il s'agissait d'une avancée très prometteuse. Un vaccin efficace sera une arme supplémentaire très importante dans la lutte contre Ebola, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Testé en Guinée sur plus de 4000 personnes, le vaccin VSEBO, développé par l'Agence de la Santé publique du Canada et dont la licence est détenue par les laboratoires américains New Link Genetics et Merck, s'est révélé à 100% efficace, selon une étude publiée ce vendredi dans la revue médicale britannique de Lancet. C'est une grande nouvelle et l'événement médical le plus prometteur jusqu'à présent dans la lutte en cours pour stopper Ebola, commenté le virologiste britannique Benjamin Newman. Il y a à peine une année que la communauté internationale s'est massivement mobilisée pour tenter de trouver des traitements et des vaccins jusque-là inexistants pour venir à bout du virus. Le vaccin VSV-Ebo va ainsi pu être testé sur le terrain en Guinée en moins d'une année alors qu'il faut généralement près de 10 ans pour qu'un vaccin arrive à ce stade de développement, soulignent plusieurs experts.
Merci, Dona Madimba. Et puis ce drame, une pluie torrentielle vendredi matin à Loubilo Maniema a fait près de 200 maisons sans toiture et aux murs écroulés. Information donnée par le chef de ce village et confirmée par le président de la société civile locale. 8 églises et 6 écoles, affirment ses sources, ont été détruites. Le chef du village de Loubilo lance un SOS aux autorités et personnes de bonne volonté pour une assistance. Le cri de détresse de Wekankola au téléphone de Dexon à Sanikamango.
Nous n'avons jamais vécu pareille situation à Loubilo. La population vit dans la belle étoile. Église, école, centre de santé, voire même un hôtel qui était en pleine construction, tout est par terre. Les gens qui y habitaient déjà ont eu la vie sauve grâce à Dieu. Après un tour, nous sommes en train de compter plus de 200 maisons, au moins 8 églises et les gîtes des prêtres. D'autres avenues se retrouvent sans maison et les gens sont dehors. L'eau a emporté même les assiettes, les casseroles et d'autres biens ménagers. Le village manque même une papaye. Nous lançons un cri aux autorités à travers la radio. Qu'elles nous viennent en aide, car nous souffrons. Nous ne savons même pas où allons-nous passer nuit ce soir. Nous souffrons.
Ce journal se poursuit au Sud Kivu avec cette première visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC au camp de Lusinda en territoire de Fizi. Martin Kobler a été porteur de 2 messages ce vendredi dans ce camp qui héberge 7300 réfugiés burundais. Dans la force délégation, on pouvait voir notamment le commandant des opérations militaires Sokola 2 au sud du Sud Kivu ainsi que les autorités civiles et policières locales. À quelle heure est-il arrivé hier, Fiston Goma?
Il était 14h30 lorsque Martin Kobler a foulé le sol du camp de Lucinda. Il venait de parcourir 37 km de route sur la nationale numéro 5 entre la cité de Baraka et Lucinda. Plusieurs milliers de réfugiés ont été mobilisés au camp pour son accueil au rythme des tambours traditionnels. Le président du comité des réfugiés, Faustin Mibizi, a saisi l'occasion pour poser quelques soucis, dont celui de la prise en charge scolaire de leurs enfants à l'approche de la rentrée scolaire. Les allocutions se sont succédées depuis le ASTER, la MONUSCO, la CNR, les commandants des opérations militaires de FRDC, les autorités civiles locales. Chacun a expliqué à tour de rôle le travail fourni deux mois durant dans l'administration à l'intérieur du camp, dans l'assistance ainsi que dans la sécurisation de ces réfugiés. La visite guidée à travers le camp a reflété l'image de ces efforts qui ont été reconnus par Martin Kobler.
C'est un travail excellent ici qui a été fait par les autorités locales, mais aussi par nos collègues, le HCR, qui ont vraiment travaillé 24 heures. Merci bien pour tout le monde, mais le problème politique persiste, c'est le problème au Burundi. Et chaque pays a l'obligation de vraiment créer des conditions politiques ici afin de garantir la sécurité de leurs gens et de ne pas créer les réfugiés. C'est l'obligation du gouvernement burundais et j'espère qu'ils vont rentrer bientôt.
Le ASTER a enregistré 14 300 réfugiés burundais dont la moitié vit dans ce camp de Lucinda. D'Ouvira Fiston, Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Politique dans ce journal, le calendrier électoral global de la CENI n'est plus d'actualité et demande un réaménagement profond. C'est ce qu'a déclaré le président du mouvement pour le renouveau au cours d'un point de presse tenu hier vendredi à Kinshasa. D'après la lecture du député national Clément Kankou, la période d'élection des gouverneurs des nouvelles provinces se chevauche avec la campagne pour l'élection des députés provinciaux. Il pense que la classe politique de l'opposition ne pourrait plus accorder de crédit à la CENI et devrait suspendre toute concertation avec cette institution. Clément Kankou pense finalement qu'un nouveau calendrier électoral consensuel et respectant la Constitution s'impose. Clément Kankou au micro de Jacques-Yves Moulima.
Aujourd'hui, le mouvement pour le renouveau tire la sonnette d'alarme parce que le calendrier qui a été prévu par la CENI a déjà glissé. Je donne des exemples simples. Il avait été prévu qu'entre le 26 mai et le 28 juin, les dépôts des candidatures aux élections communales. Ça n'a pas été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de ces élections? Quand on prévoit l'élection des gouverneurs pour le 6 octobre, alors que nous savons qu'entre le 24 septembre et le 24 octobre, il y a campagne des députés provinciaux. Comment les députés provinciaux qui sont en campagne peuvent en même temps élire le nouveau gouverneur le 6 octobre? Donc nous constatons et nous voulons que l'opposition, la société civile, l'opinion, tant nationale qu'internationale, comprennent que ce calendrier est désormais caduque, qu'il faut tout simplement mettre en place un nouveau calendrier qui ne tient compte que d'une seule chose, l'élection présidentielle 2016, pour ne pas qu'il y ait glissement. Certainement, l'élection des députés nationaux et provinciaux peuvent être greffées.
Dans un autre registre, l'état civil de la RDC vient de s'enrichir de 8000 nouveaux enregistrés aux naissances. Il s'agit d'enfants de 0 à 17 ans habitant les communes de Kimbanseke et Massina à Kinshasa et qui jusqu'ici n'étaient guère officiellement connus par l'état congolais. Save the Children et une dizaine d'autres organisations ont pendant 6 mois mené des opérations d'identification et de facilitation pour l'obtention de jugements supplétifs et par conséquent donc la délivrance d'actes de naissance au maximum d'enfants litigieux dans ces deux communes. L'opération est arrivée à son terme et une remise de ces 8000 actes de naissance à leurs bénéficiaires a eu lieu vendredi dans la commune de Massina à Kinshasa. Dona Madimba a assisté à cette cérémonie et nous en fait le compte-rendu.
Applaudissements et exultations comme si on était à une collation de grades académiques ou à un mariage à la congolaise, alors que pas du tout.
Nous venons ici au nom de tous les enfants bénéficiaires des actes de naissance, exprimer notre gratitude aux autorités ici présentes, ainsi qu'à toutes les organisations et bailleurs de fonds qui ont rendu possible cette action. Mais plusieurs milliers d'enfants manquent les documents. C'est ainsi que nous exprimons le vœu de la continuité de l'action pour que tous les enfants congolais aient cette action. Je vous remercie.
Effectivement, ce vendredi, en plein quartier 1, dans une salle polyvalente de ce quartier, Save the Children, mais aussi les autorités de Kinshasa, parmi lesquels le représentant des ministres provinciaux, les bourgmestres de Massina et Kimbanseke, remettent symboliquement une dizaine d'actes de naissance à leurs bénéficiaires, Bernard Ngamo de Save the Children.
On est vraiment allé au-delà du résultat parce que le travail de sensibilisation qui a été abattu à la base était exceptionnel.
On n'en parle pas souvent, mais d'après de nombreux experts de l'état civil de Kinshasa, les enfants sont de moins en moins enregistrés à l'état civil et selon les mêmes sources, une estimation de 1 enfant seulement sur 10 est enregistré ne serait pas une exagération.
Et pour finir, la synergie des associations de parents d'élèves et étudiants du Congo dénonce la vente obligatoire de fournitures scolaires par les gestionnaires scolaires du sud de Kivu. L'ANAPECO, la PEC et la PEP ont adressé une lettre aux autorités scolaires de la province pour leur rappeler les dispositions légales en vigueur sur ce. La synergie de ces associations demande aux autorités de s'y investir et précise que les parents d'élèves ne savent plus quoi faire et le constat est amer. Kadia Zouba.
Selon le président provincial de cette synergie, le constat est amer. Non seulement la prime persiste et pèse sur les parents, mais aussi une nouvelle situation qui s'impose et devient une coutume. Les parents à faible revenu incapables de se ravitailler dans les écoles qui vendent des fournitures voient leurs enfants chassés dès le début de l'année scolaire. Deo Mouchamara, président provincial de l'ANAPECO, explique.
Prenons une jeep d'une fillette qui coûte 2 ou 3 dollars au marché. Vous trouvez à certaines écoles, on les vend à 7 ou 8 dollars. C'est un peu trop. Alors que le ministère a dit que les associations des parents, les gestionnaires doivent suivre scrupuleusement cette pratique pour épargner les parents d'un trop perçu par rapport à ce qu'ils paient dans les écoles.
En réaction, le directeur provincial de l'enseignement primaire et secondaire du Sud Kivu demande aux gestionnaires scolaires de se conformer aux instructions du ministre Makar Mwangu sur la vente des fournitures scolaires. Ladislas Muganza.
C'est intolérable que l'institution scolaire devienne une boutique à un prix supérieur à celui du marché public. Nous aurions souhaité que l'on laisse les parents la latitude et s'approvisionner sur le marché public. Là, ça serait faciliter la tâche aux parents.
Les parents du tout ce qui vous interrogez à ce sujet demandent aux autorités de contrôler cette situation. Depuis Bukavu, Kadia Dzouba, Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.